Bonjour et bienvenue dans le podcast de Banana Split Project qui recueille des témoignages de Français d'origine asiatique revenus vivre en Asie. Aujourd'hui pour notre sixième épisode, j'accueille Mimi Nguyen qui a fui le Vietnam en étant tout bébé avec sa famille et qui a grandi en région parisienne. Elle est à Singapour depuis 3 ans et si quelques passages vous évoqueront des similitudes avec d'autres parcours de Vietnamiens, elle nous offre cependant un regard unique sur son expérience et sa relation au Vietnam et à l'Asie. Ce n'est pas parce qu'on est asiatique qu'on a forcément plus d'affinité avec l'Asie qu'autre chose. Elle nous parlera aussi du poids du passé dont elle a hérité, de ce tabou autour de la guerre, ce silence qui se transmet de génération en génération et de la nécessité de briser cela pour se libérer des traumas. Elle partagera aussi avec nous son vécu de femme, harcelée à Paris et pas à Singapour. C'est parti ! Bonjour Mimi.
Bonjour Viviane, merci de m'accueillir sur Banana Split.
Merci de venir aujourd'hui. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours et surtout d'abord celui de ta famille qui est venue du Vietnam. Comment, pourquoi, en quelle année?
Ma famille a immigré en France en 1983. C'était suite à la guerre du Vietnam, donc à la fin de la guerre plutôt. En 1975, donc la guerre se termine, les communistes arrivent dans le sud où ma famille vit. Ils ne s'attendaient pas, je crois, ma famille, à ce que les temps de paix, en fait, soit plus difficile que les temps de guerre. Au bout de 6 ans, mon grand-père demande à être accueilli en France en tant que réfugié avec sa famille. Et 2 ans plus tard seulement, on reçoit les visas des Viet Cong. Et donc, nous sommes en 83. Mes parents ont 30 et 35 ans, 2 enfants. Ma sœur a 4 ans, j'ai 8 mois. Il y a aussi ma tante qui a 18 ans, mes grands-parents maternels, mon oncle, sa femme et... leur petite fille.
D'accord, donc vous partez tous en famille et toi tu es bébé.
Oui.
Vous arrivez à Paris, comment ça se passe?
On arrive en région parisienne, j'ai déjà un oncle qui est là depuis peu, donc on demande le rapprochement familial en fait. Ensuite, de foyer en contact, on arrive en fait à s'installer dans un HLM à Villeneuve-la-Garenne. C'est une ville de banlieue qui est coincée entre Saint-Denis et Gennevilliers, une ZEP. Là-bas, j'ai grandi sans encombre, en fait, au milieu des jaunes, des noirs, des beurs et parfois un peu de blanc.
D'accord, donc c'était très multiculturel.
Oui. Et en fait, on n'a pas eu de soucis de discrimination et de racisme. Enfin, en tout cas, je ne les ai pas sentis. Enfin, quand j'ai 14 ans, on déménage en Seine-et-Marne. Ça nous change beaucoup. Et là, pour la première fois, je me retrouve en minorité au milieu de beaucoup de blancs.
Tu as senti la différence?
On me remarquait plus, ouais. Mais j'ai toujours été intégrée et jamais de soucis.
Est-ce que tu en as joué ça, d'être la seule asiatique, d'être une jeune fille asiatique? Est-ce que tu attires plus le regard?
Ça m'est arrivé plus tard, adulte, comme un peu la caution exotique, le type de femme qu'on remarque dans la rue parce qu'elle est différente, l'image des asiatiques de femmes soumises, de femmes sexy.
Tu penses qu'il y a un fantasme de la femme asiatique?
Je pense, oui, qu'il y a certainement eu pour une partie de la population. J'en ai pas vraiment souffert, mais j'ai remarqué que cette différence était quand même... je sortais quand même du lot.
D'accord. Et quand tu as grandi, est-ce que tu avais un lien avec le Vietnam? Est-ce que tes parents parlaient vietnamien à la maison? Est-ce qu'ils vous racontaient des histoires de ce qui s'est passé avant? Ou est-ce qu'au contraire, vous étiez complètement dans le présent, dans l'intégration?
Alors l'intégration, comme pour beaucoup de familles d'immigrés, elle était essentielle pour mes parents. Cependant, à la maison, il s'agissait vraiment de continuer à nourrir notre culture vietnamienne par la langue, par la nourriture, par les traditions. Mais il fallait vraiment avoir les deux. C'était important qu'on soit intégré et qu'on soit accepté en France, qu'on ne fasse pas de vagues et qu'en même temps, on n'oublie pas nos origines. J'ai toujours eu cette double culture et j'ai toujours emmené avec moi. J'ai toujours mixé. Je pense que c'est probablement le cas aussi de ma sœur et de mon petit frère.
Tu es retournée au Vietnam à quel moment? Est-ce que tu as eu envie, en grandissant, de mieux connaître ce pays et d'y retourner à un moment donné?
J'ai toujours eu envie d'y retourner, mais j'avais peur. Je pense que j'ai hérité de mes parents et de ma famille de traumatismes liés à la guerre et à l'exil qui ne sont pas mes traumatismes, mais c'était quand même difficile pour moi de me confronter au Vietnam. J'y suis née, mais je ne le connais pas. Et j'ai mis 25 ans. J'ai mis 25 ans à y retourner. C'était à la fois excitant et difficile. Et quand je suis arrivée sur place, tout était si familier, c'était un peu normal d'être là.
Comment tu t'es dit, c'est chez moi ou c'est mon pays?
Je me sentais...
Je connais ce pays.
Oui, j'étais connectée, en fait. J'ai compris ce que ça voulait dire, les racines. Et c'était bizarre parce que j'avais aucun souvenir du Vietnam. Et je m'y attendais pas. Je m'étais dit, je vais y aller en touriste, on verra bien. De toute façon, c'est plus le même pays. Ça a changé par rapport à ce que me racontaient mes parents. Et là-bas, en fait, je me suis un peu sentie chez moi, quoi.
Et tes parents ont fait ce voyage aussi?
Mes parents ont fait ce voyage. Ils l'ont vécu différemment. On l'a pas fait ensemble. Ils l'ont fait aussi à ce moment-là, 25 ans plus tard. Ils ont cherché, en fait, je pense, leurs souvenirs de 25 ans plus tôt. Évidemment, ils ne les ont pas retrouvés. Ils étaient déçus, je pense aussi, de ce que le Vietnam était devenu par rapport à l'image qu'ils en avaient gardée. Et évidemment, conséquence, après la chute du Vietnam du Sud, évidemment, c'était que les communistes étaient partout dans le pays. Et ça, mes parents, je pense que c'était difficile pour eux. Et ils n'aiment pas le Vietnam d'aujourd'hui.
Ça ne correspond plus, en fait, à ce qu'ils ont vécu, au pays qu'ils ont connu.
Non, ça ne correspond plus. Et au-delà de ça, je pense que c'est un pays où ils n'ont pas de plaisir à être. Ils préféreraient aller en Afrique du Sud, en Thaïlande. Ou...
Voilà, donc tes parents sont bien intégrés maintenant en France. Et toi, depuis 3 ans, tu es à Singapour. Comment tu es arrivée à Singapour? Quel a été ce choix, en
fait? Alors, c'est complètement déconnecté de mon histoire familiale, puisque c'est par mon conjoint qui est blanc et français. Il a une opportunité professionnelle à Singapour. Je l'ai suivi sans me dire, je m'étais jamais dit, il faut que je rentre au Vietnam ou en Asie pour les années qui viennent.
Donc c'est une opportunité professionnelle, ça aurait pu être New York, Londres, n'importe où.
Tout à fait.
Et le fait d'être ici, est-ce que ça te donne envie de connaître plus le Vietnam, d'y retourner plus souvent ou pas particulièrement?
J'ai eu envie d'y retourner parce que mon frère y vit. Ça ne s'est toujours pas fait en 3 ans. Il est venu me rendre visite à Singapour. Ça me paraît tellement accessible maintenant parce que c'était à 2 heures de vol que je me dis j'ai tout le temps du monde pour le faire. Alors c'est pas la bonne approche parce qu'au final je sens bien que ça fait 3 ans et que j'y suis toujours pas allée. J'ai envie d'y aller et en même temps je me demande s'il faudrait que j'aille dans des endroits que je ne connais pas encore en tant que touriste. Ou est-ce qu'il faut que j'essaye de revenir dans la ville de mes parents, donc à Saigon, à Ho Chi Minh. Ou est-ce qu'il faut que j'aille juste visiter mon frère? Ou je pense que je me pose beaucoup de questions parce que c'est pas une évidence encore.
Et à Singapour, tu te sens bien? Tu es bien intégrée?
À Singapour, oui, tout se passe bien. La vie est facile, elle est belle. je suis intégrée dans le sens... sens premier, c'est-à-dire que je suis complètement fondue dans la masse et c'est un petit peu frustrant à un moment de ma vie où j'ai envie de sortir du lot.
On a l'habitude de sortir du lot et finalement on retourne dans l'anonymat, c'est toujours...
C'est ça, et cet anonymat est à la fois agréable et en même temps je me sens très française ici et ça ne se voit pas. Que je suis à la fois intégrée et je me sens différente.
Tu as des anecdotes, je sais que tu habites dans une résidence avec des locaux, c'est ça, avec d'autres familles. Comment te perçoivent-ils?
Alors, il y a un peu de tout dans la résidence. Il y a des Français, il y a d'autres Westerners, et il y a des locaux. Quand je suis arrivée, c'est vrai que les gens me prenaient pour la helper parce que je suis mat de peau, en tout cas trop mat pour être... chinoise, par exemple.
Parce que les helpers, donc les maids qu'on appelle ici, ce sont les femmes qui aident, donc qui sont souvent d'origine philippine ou indonésienne.
Oui. Par contre, j'ai une allure un peu différente d'eux et quand je parle, j'ai pas l'accent local, donc ça les embête beaucoup de pas savoir, de pas arriver à me situer.
Est-ce que ça t'a vexé qu'on te prenne pour une maid et comment tu l'as ressenti?
Je pense que ce qui m'a vexé, c'était pas tellement qu'on me confonde avec une maid. C'est-à-dire que techniquement, qu'on me confonde avec une philippine ou une indonésienne, c'était pas ça. C'est le fait qu'on me dise pas bonjour parce qu'on me prenait pour une maître.
Donc c'est le regard de classe, enfin vraiment le regard condescendant.
Oui. Et en tant que française, c'est un peu choquant.
Oui, je comprends. J'ai l'impression que pour toi, c'est toujours un petit peu difficile d'avoir une relation saine, on va dire, avec le Vietnam. C'est à la fois un pays dont tes parents sont partis de manière assez traumatisante, à la fois un pays qui t'attire, puisque tu disais que c'est là que tu te sentais bien, que tu avais trouvé tes racines et un côté familier. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette relation que tu entretiens avec le Vietnam et à tes racines?
Oui, alors avec le Vietnam, on se tourne autour, en fait. C'est une relation où, d'un côté, j'ai hérité des traumatismes familiaux qui ne sont pas à moi, parce que je ne les ai pas consciemment vécus. Et d'un autre côté, j'ai toujours de la famille là-bas, j'ai mon petit frère qui s'est installé là-bas, maintenant je suis vraiment prêt, donc je pourrais y aller plus facilement aussi. Et comme tu dis, quand j'y suis retournée, j'ai beaucoup aimé les moments que j'ai passés là-bas. Maintenant, c'est un Vietnam que je ne connais pas, c'est un Vietnam, celui d'aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec celui que m'ont raconté mes parents. et c'est un Vietnam dans lequel je ne me reconnais pas. Je suis vraiment entre le régler le passé de mes parents et apprivoiser un pays qui est le mien mais que je connais pas encore.
Tu sens que tu as besoin de régler ce passé pour avancer ?
Oui, je pense que c'est important de parler de ce qui s'est passé, ce que font pas forcément facilement les familles qui sont passées par des guerres et l'exil et recommencer de zéro. Et je comprends que ce soit très douloureux, que ce soit pénible, que beaucoup d'entre eux veulent juste regarder vers l'avenir et jamais regarder en arrière. Mais pour moi, c'est important qu'ils en parlent et qu'ils nous en parlent à nos générations pour qu'on arrête de transmettre ça, pour qu'on casse la boucle quelque part. Mmh. Quand je dis qu'ils m'ont transmis leur traumatisme, c'est vraiment... moi, j'avais peur de retourner au Vietnam. J'étais incapable de regarder les films comme Apocalypse Now, Full Metal Jacket. Je pouvais pas regarder des reportages sur le Vietnam sans m'effondrer, et je ne comprenais pas pourquoi.
Est-ce que c'était tabou ? Ils n'en parlaient absolument pas, ou ce qu'ils t'en disaient était effrayant ?
Ils en parlaient par bribes. Quand je leur posais des questions, ils racontaient des histoires, des morceaux, mais c'était comme des pièces de puzzle qui n'étaient pas reliées, et il manquait beaucoup, beaucoup de pièces. Au fil du temps, à force de poser des questions ici, là, ils ont commencé à en parler un petit peu, mais c'est difficile.
Quelles valeurs as-tu reçues de ton éducation ? Qui sont des valeurs asiatique ou vietnamienne, tu penses, par rapport à des valeurs françaises?
Alors, mes parents n'échappent pas au cliché asiatique de bien travailler à l'école, devenir ingénieur, pharmacien, médecin, avocat.
Et d'ailleurs, toi, tu es...
Rien de tout ça. il faut pas embarrasser ses parents, il faut faire profil bas, pas faire de vagues, le cliché, quoi. Et j'ai tout raté là-dedans.
Bravo.
Non, en revanche, ils m'ont transmis la valeur du travail, du mérite, le sens du sacrifice, la solidarité, quoi d'autre ?
C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal. Être content de ce qu'on a, se satisfaire de ce qu'on a. Et ça, je le pratique encore aujourd'hui.
Est-ce que tu as besoin de contribuer, d'essayer de développer le Vietnam ou l'Asie en général ? Est-ce que tu as envie de t'investir dans des associations caritatives ?
Alors, pas spécifiquement en Asie. Ce serait pour des questions géographiques en Asie. Que je reste en Asie ou que j'aille ailleurs, n'importe où dans le monde, ce que je souhaite accomplir, ça reste la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, m'investir pas forcément que dans des associations caritatives, mais apporter ma modeste contribution à un monde moins dégueulasse. Donc je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de faire en Asie ou ailleurs.
Ton frère aujourd'hui vit à Saigon. Toi, non, hein, tu l'envisages pas du tout. Tu pourrais faire ta vie n'importe où finalement.
C'est pas que je l'envisage pas du tout. Je pense que je pourrais vivre un temps au Vietnam. Mais c'est pas un but dans ma vie que de rentrer au Vietnam parce que c'est mon pays d'origine. Si on y va, très bien, je serais contente d'y aller. Mais si on me propose par ailleurs demain l'Amérique du Sud, je serais contente aussi.
Et la France, est-ce que tu as envie d'y retourner un jour ou...
Alors un jour peut-être, oui. Là, à moyen terme ou à court terme, j'envisage pas de retourner m'installer en France, même si on y rentre une fois ou deux dans l'année pour visiter la famille et les amis. Professionnellement, non, je pense qu'on va essayer de rester soit à Singapour, soit de bouger ailleurs.
Qu'est-ce qui te plaît particulièrement en Asie ?
Alors à Singapour en particulier, le fait que ce soit la version très facile de l'expatriation, comme c'est notre première, on apprécie que justement les gens parlent anglais, que tout soit moderne, safe.
Sûr,
sécurisé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en tant que femme, je n'ai absolument pas peur de sortir la nuit, même avec un short et un t-shirt, ce qui n'est pas le cas à Paris. Donc ça, c'est très agréable. Le reste, en étant à Singapour, évidemment, c'est un hub vers tous les pays de l'Asie du Sud-Est. Donc pour voyager, on a quand même des opportunités de destinations qui sont très attractives.
Mais qu'est-ce qui, dans la culture asiatique, dans ce que propose l'Asie, je sais pas, cuisine, l'art, qu'est-ce qui t'attire particulièrement ?
La cuisine, par exemple, c'est quelque chose que... Alors, en ayant passé autant de temps en France et à Paris en particulier... Tu retrouves tout ça. L'Asie, au final... Non, en fait, moi, je ne sais pas. Attends.
Oui, non, mais c'est pas grave. Ce que j'essaie de comprendre, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement asiatique dans ton attrait pour le fait d'être à Singapour ?
Non, en fait, c'est ça. Non, c'est ça. C'est pas lié à l'Asie.
Voilà, c'est pas lié à l'Asie.
Parce que Singapour, c'est pas du tout asiatique. Ouais. Enfin, c'est pas oui, représentatif.
Voilà, mais pas...
C'est-à-dire qu'en plus, à Singapour, moi, j'apprécie pas spécialement la nourriture. J'apprécie pas forcément les mœurs des gens. Enfin, c'est pas que j'ai rien contre, mais c'est pas ça qui m'attire. Pour avoir pas mal voyagé sur d'autres continents, notamment on parlait de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Asie a de plus que l'Afrique? Qu'est-ce qui m'attirerait plus en Asie? Tu vois, y a pas, l'Asie n'est pas une évidence.
Ouais.
ça pourrait l'être parce que je suis vietnamienne, oui, mais non, au final, comme je ne m'y reconnais pas plus que ça dans le Vietnam d'aujourd'hui, il y a des choses auxquelles je tiens, mais je les trouve chez moi, en fait. Je les trouve dans ce que m'ont transmis mes parents, je les trouve à la maison chez mes parents, que ce soit la culture ou les traditions, je les ai dans ma famille, en fait. J'ai pas besoin de me déplacer en Asie pour ça.
Donc c'est pas le mode de vie asiatique ou voilà quoi que ce soit qui t'attire particulièrement ici, parce que de toute façon Singapour c'est vrai est très occidentalisé. Ouais, donc,
mais la France non plus ne correspond plus. C'est pour ça qu'on est parti aussi.
Ouais.
Donc c'est pas que je suis perdue, c'est juste que tu vois je me reconnais ni dans ce qui se passe en France aujourd'hui ni dans ce qui se passe au Vietnam aujourd'hui.
D'accord.
Et je me considère pas comme Singapourien, je me considère comme une étrangère ici.
Ouais.
Ils m'accueillent, je suis invitée. Enfin, je suis reçue plutôt, je me suis invitée, mais je reçue. Mais je n'ai pas cette attache spécifique. Et je pense que cette attache, je pourrais l'avoir n'importe où ailleurs aussi. Parce que peut-être ça va dépendre des gens que je vais rencontrer, ça va dépendre des expériences que je vais avoir plus que de ce que ça représente.
Oui. Plus que... Non, parce que certains voilà aiment l'énergie en Asie, l'ébullition, voilà ce genre de choses.
Ce qui est très agréable, c'est ça, c'est que c'est dynamique. C'est-à-dire que les opportunités sont nombreuses, que ce soit professionnellement ou pour apprendre de nouvelles choses et pour se lancer dans des nouvelles choses. C'est plus facile en Asie qu'en France actuellement, mais si tu veux monter ton entreprise, par exemple, ça sera plus facile ici. Si tu veux changer de voie, ça sera plus facile ici. Si tu veux barouder, ça sera plus facile ici. L'Asie en particulier, plus que, encore une fois, l'Afrique, l'Amérique du Sud ou l'Asie du Nord, en l'occurrence. Enfin, l'Asie du Nord, c'est aussi plus difficile parce que c'est le Japon, c'est pas nécessairement accessible, c'est un peu isolé, etc. C'est pas en termes de, oui, de juste gastronomie, type de consommation, ou même religion, tu vois. Il y a un melting pot, mais ce melting pot, moi, je l'avais pas.
Ta famille qui est restée au Vietnam, j'imagine que tu dois avoir des oncles, des grands-oncles, grandes-tantes qui sont restés. Est-ce que tu sais comment ils vous considèrent? Est-ce que tu as de la communication avec eux? Tu arrives à échanger? Est-ce que tu es en contact avec cette partie de la famille?
Comme pour tout le reste de ma famille, je suis très peu en contact, mais j'ai des contacts. Enfin, j'ai des nouvelles, on va dire, par mes parents, qui sont un peu le centre de toutes les informations de la famille. Mon frère est installé là-bas. J'ai des nouvelles maintenant, parce que c'est plus facile aussi avec Viber, Internet et tout ça. J'ai de la famille également aux États-Unis. Et c'est pareil, je prends pas directement de nouvelles, mais il y a Facebook, il y a Instagram, il y a tous ces trucs-là. Ça nous permet de rester en contact. On s'appelle pas, en fait, mais on a quand même des nouvelles les uns des autres. Et au Vietnam, il y a un tel fossé. D'abord, ça a été géographique, et puis culturel, et puis générationnel. J'ai revu mes oncles et tantes et cousines en France, au Vietnam, et même ici à Singapour, ils sont venus cette année. Il y a un tel fossé. On n'a pas grand-chose à se dire, on n'a pas grand-chose à partager aujourd'hui. Et en même temps, en ce qui me concerne, les liens du sang sont très forts. On partage ça et on partage l'histoire commune. Et du coup, j'ai beaucoup d'affection pour eux sans forcément avoir beaucoup de sujets de conversation.
Oui, ça va au-delà des mots finalement.
Oui.
Est-ce que ils sont curieux de la vie que vous avez eue en France? Est-ce qu'ils se projettent dans « Ah, si nous aussi, on avait pu partir ou... »
Ça fait partie des sujets qu'on n'aborde pas vraiment, ou en tout cas qu'ils n'ont pas abordé avec moi. Peut-être que ma tante aborde le sujet avec mon père, parce que c'est sa sœur aînée, mais nous, la génération d'après, non, on n'en sait pas grand-chose. Encore une fois, la transmission, la parole, n'est pas du tout facile pour les membres de ma famille, et je crois que c'est assez répandu, malheureusement. Ils font aussi partie des gens qui n'ont pas eu d'autre choix que de regarder vers l'avenir. Regarder en arrière, c'est contre-productif, en fait. Tu peux pas t'es trop occupé à survivre, tu vives dans le passé.
Tandis que notre génération, qui est passée au-delà, finalement, du traumatisme, peut se retourner et se poser des questions.
Oui, et ce qui est important, encore une fois, c'est de pouvoir établir cette conversation, même si elle n'est pas facile à amener, même si elle est douloureuse. Je pense que c'est important de la transmettre, enfin de la transmettre l'histoire. Je t'ai parlé de mon frère qui vit au Vietnam. Lui, c'est très drôle parce que, tu vois, c'est mon petit frère et on a des histoires, des trajectoires totalement différentes. Lui, il est né en France, il a grandi en France, il est retourné en Asie il y a peut-être 10 ans maintenant. et il est aujourd'hui installé au Vietnam. Ma famille est du Vietnam du Sud. Il a commencé par travailler dans le Nord, à Hanoï. Aujourd'hui, il habite à Saigon, chez lui. Il a épousé une Vietnamienne. Tu vois, son histoire, j'espère que tu pourras l'interviewer aussi.
Oui, j'espère.
Elle sera totalement différente. Et celle de ma sœur aussi. Ma sœur, donc, elle est née au Vietnam, c'est notre aînée. Elle est avec un Vietnamien de France, qui est né au Vietnam mais qui est français aussi. Ils ont eu des enfants. Donc la transmission pour eux, c'est encore une autre question que moi je me pose pas, j'ai pas d'enfants et bon, c'est différentes problématiques.
Oui, d'une génération à l'autre avec tous ces départs, ces déménagements, ces migrations, c'est vrai.
Oui,
que...
et puis de la même génération, tu vois, entre ma sœur, mon frère et moi, et ben on va avoir trois nouvelles histoires.
Ouais.
Et comme je te disais aussi, mes cousines aux États-Unis, c'est encore différent. Elles sont parties aux États-Unis, donc elles sont américaines. C'est d'autres cultures. Et nos conversations avec cousine américaine, c'est pareil, t'as de nouveau un gouffre culturel.
Il n'y a pas forcément la barrière de la langue qui peut y avoir avec peut-être la famille au Vietnam. C'est un autre vécu,
c'est un autre passé. C'est totalement d'autres histoires.
Et pourtant, il y a quand même ce lien du sang, tu disais, qui fait que vous sentez proche.
On se sent liés les uns aux autres.
Est-ce que parfois tu te projettes en te disant « Ah, si j'étais restée, si mes parents étaient restés, quelle vie aurais-je eu en grandissant à Saigon ?»
Alors, c'est très court comme projection, c'est relativement... je me le serais pas souhaité, en fait.
Oui, d'accord. Donc, tu es reconnaissante.
Oui, la gratitude, c'est quelque chose qui nous est transmis aussi. Ouais. Je pense que ça aurait été très, très dur parce que donc trois de mes cousines à l'époque étaient restées au Vietnam et n'avaient pas pu partir. Et la vie qu'elles ont eue a été très, très dure. Et deux d'entre elles n'ont jamais pu partir. La troisième, la plus jeune, a réussi à partir en Australie d'abord et aujourd'hui elle est installée aux États-Unis. Mais ses deux sœurs sont toujours au Vietnam aujourd'hui. Alors, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais à l'époque, même 10 ans après la fin de la guerre, c'était dur.
Et ça t'est venu à quoi, finalement, le fait de pouvoir partir ou ne pas partir?
Alors, je ne saurais pas dire dans les détails, vraiment, de ce qui s'est passé, parce que je ne connais pas les détails. Ma cousine qui a pu partir, c'est parce que si elle avait épousé un Vietnamien qui avait la nationalité australienne. Ensuite, pour mes cousines vietnamiennes, le principal problème, ce sont les papiers, les visas. Et il n'y a pas si longtemps, en fait, il y a peut-être 10 ans, donc ça allait déjà mieux au Vietnam. Une de mes cousines avait voulu venir rendre visite à mes parents en France, et c'est la France qui lui a refusé le visa.
D'accord.
Parce que peut-être qu'ils avaient peur qu'elle s'installe en France.
C'est plus la même vague d'immigration que dans les années...
Non, bien sûr, et puis c'est des règles différentes, mais là, être vietnamien, c'est pas nécessairement un cadeau.
Tu disais tout à l'heure, et c'est vrai que Singapour est beaucoup plus sûr en tant que femme pour se balader la nuit, pour sortir en short, en débardeur. On ne se fait jamais embêter, on ne se fait pas harceler dans la rue. C'est très différent à Paris. Est-ce que tu as pu avoir des insultes ou ressenti de la discrimination par rapport au fait d'être une femme asiatique ?
À Paris ? Pas spécialement des insultes. Même si j'ai connu le racisme adulte et non pas gamine. Mais adulte, oui, mais c'était du racisme. Déjà, c'était rare. Et c'était vraiment des choses de type « on n'est plus chez nous ici ». Et bizarrement, on me reprochait d'être chinoise alors que je ne suis pas chinoise.
Oui, c'est énervant.
Donc oui, c'est un peu énervant. Et même, j'ai pas vraiment souffert de discrimination, plus en tant que femme qu'en tant que femme asiatique.
C'est difficile de faire la part des choses.
En tant que femme, oui. Complètement, beaucoup trop souvent, presque pratiquement tous les jours, de personnes qui ne s'imaginent pas que c'est possible de se faire harceler dans la rue tous les jours, mais si, ça arrive. Dans le métro, dans la rue, au bureau, on oublie pratiquement ça. Et le fait d'être asiatique, peut-être que ça a provoqué de temps en temps des remarques, mais je ne suis pas sûre que ce soit la première raison, en fait. C'est d'abord parce que je suis une femme. Et ensuite, peut-être parce que je suis asiatique.
Et au contraire, quand on est en Asie, on se rend compte de la différence puisqu'on se promène tranquillement sans avoir...
Puisqu'on est toutes asiatiques.
Oui, non, mais même en tant que femme, tout simplement en tant que femme ici, on subit pas...
Mais à Singapour en particulier, c'est très très net. La différence est extrême. Et aussi, le fait de tomber dans l'anonymat ici rend forcément les choses plus simples en termes de discrimination.
Oui, bien sûr.
Et encore une fois, Singapour est vraiment très sûr. Et ça a enlevé une dose de stress quotidien qui est phénoménale.
Oui, et on se rend compte qu'une fois que c'est parti, en fait. C'est
vrai. Oui, en fait, ce qui est scandaleux à Paris, en France et dans d'autres pays, dans d'autres grandes villes, c'est que les femmes qui sont harcelées sont obligées de s'adapter et de faire en sorte qu'on ne les harcèle plus, alors qu'en fait, elles sont victimes, elles ne sont pas...
On prend l'habitude de subir...
Oui, puis on s'adapte et du coup, ça devient normal. Et c'est absolument pas normal. On n'a pas à nous faire l'effort d'emmener un pantalon au bureau pour changer pour rentrer à 7h du soir parce qu'il fait noir. C'est inadmissible.
Pour toi, le mot banane, qu'est-ce qu'il évoque? Est-ce que tu trouves qu'il est pertinent? Est-ce que c'est provocateur?
Pour moi, banane, c'est l'autodérision. À la base, je pense que c'est une expression qui est un peu péjorative. Je pense que les gens du groupe, ici, les bananes, on le prend comme de l'autodérision, c'est l'humour, c'est de se dire, bah, on a les deux cultures en général, on se sent bien avec les deux. Et être une banane, c'est peut-être ça, c'est peut-être toujours porter le jaune et le blanc, et qu'en France, on voit un peu plus le jaune, et en Asie, on voit un peu plus le blanc. Ça ne veut pas dire, en tout cas pour moi, que ma culture vietnamienne, elle est superficielle et qu'au fond, je me sens française. Non, au contraire, c'est vraiment mélangé.
Et tu portes les deux autant. Merci Mimi. Je pense qu'on a bien fait le tour de
Merci,
ton Mimi. Expérience émouvante.
Et si cet épisode vous a plu et que vous voulez découvrir le visage de Mimi, retrouvez-nous sur nos pages Facebook et Instagram @banana.split.project pour en savoir plus sur nos invités. Et n'oubliez pas de partager et de liker et de nous mettre de bonnes revues. Merci, à bientôt.